C'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui intervient. Je n'ai pas besoin de me défendre, je suis misérable. Mais quand je me sens misérable, qu'est-ce qui vient à moi? La miséricorde. C'est ça. La miséricorde vient à moi quand je me sens misérable. Mais quand je suis orgueilleux, qu'est-ce que j'éprouve? La résistance de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors ne détruisez jamais ce caractère du Christ en vous. Il était doux et humble de cœur. Et tout ce qui est dur, moi ça me fait peur. Il était doux et humble de cœur. C'est là le caractère de Jésus. Si vous voulez avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, bien dites-vous, Seigneur, mets ta douceur dans mon cœur. Que tu sois, tu aies cette douceur. Vous avez la douceur de Christ. Je vous chéris, disait l'apôtre, dans les entrailles du Christ. Et vous savez, les entrailles de Saul de Tarse, elles étaient dures. Hein, ils pouvaient voir couler le sang d'Étienne sans broncher. Il consentait à sa mort. C'est quelque chose. Quand on consent à la mort de quelqu'un, il consentait à sa mort. Les entrailles de Saul de Tarse, c'était des entrailles de fer. Et il voulait en verser encore du sang. Mais quand il a été sauvé par le Seigneur, après l'expérience du chemin de Damas, il peut écrire aux Philippiens, « Je vous chéris dans les entrailles du Christ. » Vous trouvez pas que c'est beau, Philippiens, chapitre 1er, « Je vous chéris dans les entrailles du Christ. » Et nous devons nous chérir les uns les autres dans l'amour de Jésus. Et alors, vous voyez, chapitre 4, même un prophète, il a besoin d'être réveillé. L'ange qui me parlait revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Donc le réveil, c'est être réveillé de son sommeil, de notre sommeil peut-être spirituel aussi. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant cette lampe, avec ses conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Ça vous fait penser à quelle vision, ça? À l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et le Seigneur au milieu des chandeliers. Puis il y a les deux oliviers, les deux témoins. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me paraît, que signifient ces choses, mon Seigneur? Alors vous voyez, c'est un prophète qui questionne toujours pour avoir l'explication des visions. Vous aussi, vous devez questionner le Seigneur. L'ange qui me parlait, verset 5, répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, oui, je sais. C'est ça? Non. Mais acceptons de dire, non, je ne comprends pas. Hein? Non. Et le Seigneur me dit alors, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et il y a encore ce verset 9, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Alors, que représente ici Zorobabel? Il est une figure de qui? De Christ. Il a fondé son église, et qui est-ce qu'il achèvera? C'est le Christ. Et il ne manquera aucune pierre. Bien, nous nous arrêtons là, parce que l'heure est venue, et ce soir, nous allons avoir vraiment un moment de détente, je pense, et je vous dirai ce qui se passera.
Ô Dieu notre Père, nous te remercions pour tout ce que tu veux encore nous dire par ta parole. Nous te demandons de nous bénir dans le repas que nous allons prendre et que nous puissions réaliser ce que tu nous dis. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Nous nous attendons à toi pour la fin de cette journée et nous voudrions voir cette lumière s'illuminer dans tous nos cœurs pour que nous puissions mieux te comprendre, mieux saisir ta parole et mieux t'aimer. De ton amour, et si nous t'aimons de ton amour, nous nous aimerons les uns les autres. Nous ne creuserons pas des fossés entre nous, mais nous te laisserons établir des ponts entre les âmes qui te recherchent et qui t'aiment. Bénis ce repas que nous allons prendre. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance de t'occuper non seulement de nos âmes, mais aussi de nos corps, alors que tant de personnes sont dans la peine et meurent de faim. Donne-nous de savoir rendre grâce pour toutes choses. En Jésus. Amen. Une fois encore, à la grâce de Dieu, ô Père, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton secours. Nous sommes en ta présence, sous ton regard, et celui que nous désirons entourer, celui que nous désirons contempler, c'est ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus qui nous a aimés jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Bénis-nous par la puissance de ton Esprit, et permet que ces moments passés en ta présence marquent nos vies dès maintenant et jusqu'au bout de notre course pour la seule gloire de ton nom, le nom qui sauve, le nom qui rassemble, le nom qui guérit, le nom qui sanctifie. Amen. Eh bien, mes amis, ce soir, nous voudrions parler de cette maison qui a été édifiée sur le seul fondement qu'est Jésus-Christ, celui qui était annoncé dans tout l'Ancien Testament, et qui est venu un jour sur cette terre, et qui apparut ici-bas comme un simple homme, et qui pourtant était Dieu lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et pour lier tout ce que nous avons vu jusqu'à présent avec ce que nous allons considérer ce soir, et dans la dernière journée où nous serons ensemble demain, je voudrais vous rappeler que tout ce qui est arrivé à Israël se reproduit en quelque sorte dans l'histoire de l'Église. Ce soir, vous avez lu comment a commencé au fond l'Église, à la Pentecôte. Après la mort et la résurrection du Seigneur, 10 jours après son élévation dans la gloire, la promesse du Père s'est accomplie, le Saint-Esprit a baptisé les disciples de Jésus, les 120, qui étaient réunis dans la chambre haute. Et ce fut quelque chose de merveilleux. Et je lis cela à la dédicace du temple de Salomon. C'était quelque chose de merveilleux, ce qui s'est passé au jour de Salomon. Il y avait unité dans le royaume, les 12 tribus étaient là, présentes, et ce fut un moment de gloire.
Le Seigneur a manifesté d'une façon visible sa présence. Le feu du ciel est descendu et a consumé l'Holocauste. Quelque chose de visible a été manifesté. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce Salomon n'a pas persévéré dans la voie du Seigneur. Et pourtant, il avait bien commencé. Vous connaissez sa vie, n'est-ce pas? À l'âge de 20 ans, il criait à Dieu en disant qu'il ne lui demandait que la sagesse. Il ne lui demandait ni la richesse, mais il lui demandait la sagesse pour conduire son peuple. Et voilà ce que nous apprenons, que plus tard, ce Salomon, qui était un homme inspiré de Dieu, qui était dans la main de Dieu, n'est pas resté fidèle, il s'est laissé accaparé par son amour incroyable pour les femmes et cet amour immodéré pour ce beau sexe l'a conduit à quelque chose qui nous bouleverse au pire reniement et à offrir même des enfants en sacrifice à Moloch. C'est presque incroyable. Et alors, conséquence de l'infidélité de Salomon, qui avait été pourtant si sage, eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence après sa mort? Le schisme. La division du royaume. 10 tribus ont suivi Jéroboam et 2 tribus sont restées fidèles aux descendants de David. Vous avez tout cela dans le chapitre 11 du premier livre des rois. Et vous voyez, je lis quelques versets dans le chapitre 11 du premier livre des rois. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Héthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront pas chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par quoi? Par l'amour. Et aujourd'hui, on justifie tout en disant que c'est par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et à l'époque de la vieillesse de Salomon, les femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Vous savez quel âge il avait quand il parlait de sa vieillesse? Quel âge avait Salomon quand il a dit qu'il était vieux, là? Il avait 12 ans de moins que moi. Il avait 60 ans. Et ils inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier, voyez ce que Dieu veut, à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, la divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point entièrement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il a donc sacrifié à Moloch. Et il fit ainsi pour toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Alors Dieu fut irrité, et les conséquences de l'infidélité, c'est toujours le schisme. Et dans l'Église, qui a si bien commencé le jour de la Pentecôte, il y a eu aussi infidélité. Et qu'est-ce qui s'est produit dans l'Église? Des schismes. Il y a eu le schisme. L'Église était vraiment catholique au début, hein, dans le sens d'universel, Elle était apostolique, on suivait l'enseignement des apôtres, mais quand elle est devenue infidèle et qu'elle est devenue romaine, ce qui était en contradiction, eh bien, il y a eu le schisme, d'abord avec le schisme en Orient, ce qui a fait l'Église orthodoxe, et puis ensuite, il y a eu les schismes avec ceux qu'on a appelés les protestants. Et puis, comme il y a eu des réveils, évidemment, au sein de l'Église, mais chacun est retombé dans les infidélités et ce fut la dispersion. Alors, nous en sommes où maintenant? Qu'est-ce que vous voyez? Une Église divisée en multiples fractions. Ce n'est plus une Église vraiment une. Aux yeux de Dieu, lui connaît ceux qui lui appartiennent, mais on peut dire qu'il y a aussi la ruine dans la chrétienté. L'Église ne donne plus ce visage de l'unité que vous avez trouvé dans les portions que je vous ai demandé de lire. Alors, vous voyez que nous pouvons être instruits par l'Ancien Testament. Toutes ces choses dans l'Ancien Testament leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, n'imitons pas ce qui s'est fait en Israël. Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé. On n'est pas resté fidèle à l'enseignement. Mais pour revenir à notre grand thème, quels sont les caractères d'un vrai réveil spirituel? Commençons donc par le chapitre 2 des Actes, où vous voyez les disciples du Seigneur, tous ensemble, vous l'avez lu, rassemblés dans un même lieu. Et c'est très frappant d'étudier dans les évangiles l'attitude des disciples entre eux et de les voir maintenant dans la chambre haute au matin de la Pentecôte. Quand vous lisez les évangiles et que vous voyez les disciples, qu'est-ce que vous trouvez chez ces hommes-là? Ils se disputaient. Ils étaient pourtant avec le Seigneur. Le Seigneur était là, mais eux étaient préoccupés d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Ils voulaient savoir qui était le plus grand. Même dans la nuit où Jésus fut livré, ils étaient en train de discuter de la place que eux occuperaient. Et le Seigneur leur parlait pourtant de ses souffrances et de sa mort. Mais ils rejetaient cette pensée. Et ils l'ont tous abandonné, comme vous le savez, même Pierre qui avait dit « Quand tous te renieraient, moi je ne te renierai pas ». Ils ont donc tous fait faillite en quelque sorte. Mais une fois qu'ils ont vu Jésus ressuscité et qu'ils ont été restaurés et que pendant ces 40 jours, que vous trouvez dans le premier chapitre des Actes, Jésus a été encore avec eux à plusieurs reprises et leur a donné ses dernières instructions. Eh bien, quand il les a conduits sur le mont des Oliviers pour se séparer d'eux, il les avait avertis qu'ils s'en allaient vers son père, que c'était un avantage pour eux. Eh bien, ses disciples, une fois qu'ils ont vu Jésus s'en aller dans la gloire, ce que je dis quelquefois, qu'est-ce qui était parti avec Jésus? Leur cœur. Hein? Et c'est cela. Est-ce que vos cœurs se trouvent où le Seigneur se trouve maintenant? Le Seigneur les a quittés, il est allé dans la gloire, mais quand ils le regardaient, leur cœur est parti avec lui. L'objet de leur affection est devenu un objet céleste. Ils n'avaient plus d'intérêt sur la terre. Jésus leur avait dit, je vais vous préparer une place. Où était leur place maintenant? Auprès de Jésus. C'est ça qui comptait pour eux. Et cette place, personne ne pouvait la leur prendre. Jésus était allé leur préparer une place qu'il avait payée au prix de sa vie. Où est votre place, mes amis? Est-ce qu'elle est là-haut? Ou bien est-ce que vous voulez une place sur la terre? Puis on cherche à vous la prendre. Alors vous vous débattez. Moi, je garde ma place. C'est ma place. Misère. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on prenne la place? Hein? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'on prenne la place? Ma place, elle est dans le ciel. Elle est là-haut. Alors, fini les bagarres. On ne se bagarre plus pour avoir une place sur la terre. Or, la plupart du temps, eh bien, nos querelles dans l'église, c'est parce qu'on veut la première place. Notre place, elle est auprès du Seigneur. Nous avons une vocation céleste. Alors, une fois que nous avons compris cela, on peut être ensemble sur la terre. Je ne prends pas votre place, vous ne prenez pas la mienne, on peut être ensemble. Et on a de la joie d'être ensemble. Les disciples, en revenant de la montagne des Oliviers, se trouvaient le jour de la Pentecôte, tous ensemble. Voilà l'unité qui est manifestée, dans un même lieu. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, tout à coup, il y eut du ciel un bruit, l'arbitre a dit un son, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez qu'ils étaient assis, ils étaient dans la tranquillité, assis ensemble, quand l'accomplissement de la promesse du Père, que Jésus leur avait rappelé, s'est accompli, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est là que nous avons la fondation de l'Église. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ce qui est arrivé pour eux, c'est qu'ils ont vu des langues descendre sur eux, des langues de feu. Il y a eu une manifestation tout à fait visible, tout à fait extraordinaire, qu'on ne peut pas reproduire nous-mêmes. Vous voyez, il y a des gens, des personnes dans l'Église aujourd'hui qui voudraient faire reproduire une chose pareille. Ce n'est pas possible. C'est un événement historique qui a eu lieu, la fondation de l'Église, vous l'avez donc dans le chapitre 2 des Actes. Alors, ça fait du bruit à Jérusalem. Et vous voyez que, est-ce qu'il y en a quelques-uns seulement qui ont reçu ce baptême? C'est tous, n'est-ce pas? Ça a été donné à tous. Et les 120 qui étaient là ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Ces individus sont devenus un seul corps. C'est là que le corps de Christ a été formé. Mais il ne pouvait pas être formé avant la mort du Seigneur. C'est là qu'on a vu les résultats du grain de blé. Le grain de blé, Jésus était le grain de blé, il a donné sa vie, mais maintenant, il y a plusieurs grains de blé ensemble, plusieurs vies qui seront les vies du Seigneur. Tous ceux qui ont été ainsi plongés, comme le dit 1 Corinthiens 12, dans le Saint-Esprit, forment maintenant un seul corps. Ils ne sont plus des individus isolés, mais ils forment le corps de Christ. Ou comme on va le voir, des pierres qui sont sur la pierre angulaire qu'est le Christ, et ils vont former l'édifice de Dieu. Et alors, là, il y a dans les voies de Dieu quelque chose de merveilleux, puisqu'Israël a refusé le Messie, a refusé la pierre angulaire qui était le Christ, cette pierre qu'ils avaient rejetée est devenue la pierre angulaire d'un nouvel édifice qui est l'Église. L'Église a été fondée sur le Christ, pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Les Juifs l'ont rejetée, alors Jésus est devenu la pierre d'un nouvel édifice et c'est lui qui sera le temple. le temple de Dieu, qui n'est pas un temple fait de main, mais qui est la réalisation des pensées de Dieu. Alors, vous avez lu ce récit de la prédication de Pierre, comment Pierre explique à cette multitude qui se trouvait à la fête de la Pentecôte, des multitudes de Juifs. Pierre leur explique ce qui s'est passé parce que cela fait du bruit. Les uns disent que ces gens sont pleins de vin doux et puis d'autres sont vraiment dans l'étonnement. Au verset 15, Pierre se lève, au verset 14, il se présente devant tous et il parle au nom des 11. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez prêter l'oreille à mes paroles. Et c'est la première prédication de Pierre qui leur montre que c'était quelle heure du jour? La neuvième heure? Troisième heure, c'était 9h du matin. Ça s'est passé à 9h du matin. Alors, il leur explique que, partiellement, donc, c'est la prophétie de Joël. Il faudrait aller dans Joël, un autre petit prophète. Vous voyez qu'il faut lire les petits prophètes pour comprendre tout cela. On a lu quelque chose dans Agée, on a lu quelque chose dans Zacharie. Mais c'est tous les petits prophètes qu'il faut lire pour comprendre aussi le livre des Actes. Et il leur présente quoi? Jésus. Et il leur prêche, au fond, la croix. Il leur parle de Jésus, verset 36, qui a été crucifié. Voilà ce que produit l'action du Saint-Esprit. Il présente le Christ crucifié aux âmes. Et alors, cette prédication de la croix, qu'il leur rappelle, de la crucifixion, qu'est-ce qu'elle produit, verset 37? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. L'Esprit de Dieu les convainc et ils se réveillent en quelque sorte. C'est bien cela, la prédication de la croix, elle réveille les âmes. C'est pourquoi nous disons que les caractères d'un véritable réveil, ça commence toujours par la croix. La croix a été présentée à ces multitudes, ils se réveillent, mais ils demandent, mais que ferons-nous? Alors, le plan du salut, eh bien, il leur est exposé. Il faut commencer par quoi? Par se repentir. Et pourquoi se repentir? Parce qu'on est coupable. Parce qu'on est pécheur. Quand Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. Mais qu'est-ce qui convainc de péché? C'est la prédication de la parole. Et ça, vous pouvez être sûr, on ne peut pas convaincre les âmes de péché en dehors de la prédication de la parole. Et cette prédication de la parole, c'est la prédication de la croix. Folie pour les sages, et puis scandale pour les gens religieux. On a de la peine à accepter ça, et pourtant c'est par là qu'il faut passer. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Et le baptême, n'est-ce pas, c'est le signe de la mort de Christ. Et ce signe de la mort de Christ, ce n'est pas simplement extérieur, mais cela montre que, comme Jésus est mort, nous acceptons de mourir. Mais comme Jésus est ressuscité, est-ce qu'on reste dans l'eau? Non. L'eau est une image, n'est-ce pas, de sa mort. On a été enseveli avec lui, mais on sort de l'eau pour commencer une vie nouvelle. Mais dans le baptême, nous témoignons publiquement qu'à notre vie passée, nous avons renoncé. Toute la prédication de Jésus, c'est renonce à toi. Alors, dans le baptême, je manifeste que j'ai cru que ma vie était une vie de péché, je ne peux pas continuer ainsi, alors j'y renonce, ayant compris que cette vie de péché, qui est-ce qui l'a pris? Jésus. Parce que s'il est mort, c'est pour qui qu'il est mort? c'est pour moi le pécheur. Alors, la question de nos péchés, elle a vraiment été réglée une fois pour toutes à la croix. C'est pourquoi il n'est plus question de vos péchés aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, en tant que pécheur, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous avez cessé d'exister. Est-ce que vous le croyez? Ou bien vous dites, non, non, moi j'existe bien. Je me connais. Je suis pécheur. Alors vous aimez mieux croire ce que vous pensez, vous? Dieu vous dit qu'il ne vous voit plus comme pécheur. Mais vous voulez toujours vous regarder. Vous êtes tellement admirable. Puis en même temps, vous êtes déprimé. Hein? Mais ne vous regardez plus. Dieu vous dit qu'il ne vous voit plus comme pécheur. Soyez une fois pour toutes déculpabilisés. Le drame ici, au Québec en particulier, c'est que beaucoup se sentent toujours coupables. Pourquoi? Parce qu'ils se regardent. Puis ils espèrent qu'ils vont s'améliorer. Mais si vous aviez pu vous améliorer, vous n'auriez pas eu besoin d'un sauveur. C'est parce que vous ne pouviez pas vous améliorer, c'est parce qu'il n'y avait pas de salut pour la chair. Par nous-mêmes, par nos efforts, nous ne pouvons pas nous sauver. Alors Dieu nous a donné Jésus. Jésus a pris nos péchés et sur la croix, eh bien, Dieu a détourné la face de lui. Pour quelle raison? Parce que sur la croix, qu'est-ce que Dieu voyait? Le péché. Mon péché. De sorte que je sais pourquoi Jésus a été abandonné, c'est parce qu'il me représentait sur la croix. De sorte que Dieu m'a vu en Jésus, sur la croix. Et Jésus est mort. Qu'est-ce qui est mort? Moi. Ton moi est mort. Tu as été crucifié. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Alors, non seulement crucifié, mais enseveli. Non seulement enseveli, mais ressuscité en lui. Vous êtes identifié au Christ. Le Christ s'est identifié à nous. Il a consenti à être fait péché pour nous, à être traité comme le péché même. Et maintenant, alors, il nous identifie à lui, étant le prince de la vie, quand il est sorti du tombeau. Il n'est pas sorti seul, il est sorti avec tous ceux qu'il a rachetés. Alors, si vous l'avez accepté comme sauveur, vous êtes, aux yeux de Dieu, comme Christ. Comprenez-vous cela? Et c'est ça que vous devez croire. La foi, c'est de croire ça. C'est pas croire seulement que Jésus est mort pour vos péchés, puis vous continuez à pécher. Jésus est mort, et vous êtes mort en lui. Et maintenant, vous êtes vivant en lui. Et ce n'est pas ce que vous sentez qui est vrai, c'est ce que Dieu vous dit. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. C'est pas simplement croire ce que je sens. Parce que si je regarde à ce que je sens, je ne suis pas mort. Hein. Mais si Dieu me dit que je suis mort, il ne peut pas me mentir, alors je me considère comme mort. C'est toute la prédication de Paul. Considérez-vous comme mort. Et alors, qui est ma vie? Qu'est-ce qui est ma vie? C'est Jésus-Christ. Le Christ est ma vie. Je n'ai pas d'autre vie en dehors de cela. Je suis mort. Je suis mort. Alors, comprenons-le bien, c'est la prédication de Pierre. Et alors, qui est-ce qui va combattre? C'est le don du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que nous combattons contre la chair. Ce n'est plus moi qui combat avec mes forces charnelles, non. Mais c'est l'Esprit qui combat contre ma chair. Et cette promesse de la puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas seulement pour les disciples, mais pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Est-ce que vous avez été appelé? Est-ce que vous avez répondu à son appel? Alors c'était pour vous. Alors, ceux qui acceptèrent la parole, est-ce que vous l'avez acceptée, cette parole? Ou bien est-ce que vous dites, non, non, je sens encore ceci, je sens encore ça? C'est pas une question de sentir, c'est une question de croire. Dieu me le dit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, donc le baptême venait après la conversion ou avant la conversion? Après, n'est-ce pas? Parce qu'on savait ce que l'on faisait. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez, c'était un temps extraordinaire. Alors, quelles étaient les quatre persévérances? Vous l'avez trouvé? Une fois sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il faut qu'un enseignement suive la conversion. Or, la plupart du temps, dans nos milieux, qu'est-ce que nous faisons? Dès qu'une personne est convertie, on la projette dans le monde pour qu'elle témoigne. Et je pense que c'est souvent une grande erreur, parce qu'ils ne sont pas du tout préparés. Vous êtes allé tout de suite laver la tête de vos parents, n'est-ce pas? Et vous avez fait des dégâts. Vous avez voulu tout de suite témoigner, et on vous a poussé à cela, qu'on vous a demandé de semaine en semaine à combien de personnes vous aviez rendu votre témoignage. Votre témoignage, il fallait d'abord vous laisser instruire par le Seigneur, qui vous aurait dit, va demander pardon à papa et à maman. Mais papa et maman, ils sont encore dans l'erreur. Dans l'erreur. Est-ce que c'est pas vous qui étiez dans l'erreur jusqu'à présent? Et quand on commence à croire, le premier commandement qui nous est donné, c'est « Honore ton père et ta mère ». Jusque-là, père et mère, qui vous avez quand même mis au monde, qui vous avez élevé, qui avaient, selon les lumières qu'ils avaient, fait ce qu'ils pouvaient quand même pour vous, eh bien, si vous allez simplement leur laver la tête alors qu'eux ont souvent pleuré, peut-être, et prié dans la manière dont ils priaient, mais ils priaient quand même pour vous, et puis voilà tout ce qu'on leur dit maintenant, que vous êtes soi-disant convertis, vous ne nous avez pas élevés dans la vérité, etc. Vous leur faites des reproches et vous leur dites qu'ils sont perdus et que vous, vous êtes sauvés. Vous devez bien le voir un peu, votre salut. Voilà ce que peut penser un père et une mère qui nous le montrent par sa vie. Vous comprenez? Mais si vous allez démolir vos ancêtres, eh bien, il ne faut pas vous étonner qu'il y ait du grabuge. Mais ce n'est pas la méthode de Jésus. Jésus interdisait à ses disciples quoi? D'aller prêcher l'évangile aux païens. Il leur disait, vous pouvez aller seulement dans les tribus, parmi les fils d'Israël. Mais n'allez pas chez les païens. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils auraient fait des gaffes épouvantables. Alors on se demandait, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas permis d'abord à ses disciples d'aller prêcher chez les païens? Parce qu'il n'aimait pas les païens. Et vous savez ce qu'il a fallu pour que Pierre arrive à aller chez un Corneille. Mais au temps du Seigneur, les païens c'était des chiens. Alors, forcément. Mais nous ne suivons plus la parole. Et nous disons, mais il faut que vous rendiez d'abord témoignage. Mais le témoignage, c'est votre vie changée. Et pour cela, il faut vous laisser enseigner l'enseignement des apôtres. Après la conversion, il doit y avoir un enseignement profond. Puis, la communion fraternelle, c'est la deuxième persévérance. S'aimer les uns les autres. Vivre dans la communion, je ne vais pas allonger. Puis, il y avait une troisième persévérance, qu'est-ce qu'ils faisaient chaque jour, eux? La fraction du pain. Jésus avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Et tous les jours, eh bien, dans leur maison, ils rompaient le pain ensemble, c'est-à-dire, ils prenaient la Sainte Cène, ce qu'on a appelé la Sainte Cène plus tard, ou ce qui est appelé réellement dans le texte, l'Eucharistie. Mais évidemment, tout a été déformé. Qu'est-ce que c'était l'Eucharistie? La suprême action de grâce. Et il se rappelait de la croix, du sacrifice de Christ, dans la fraction du pain. Par-delà, le pain, c'était le corps de Christ. duquel ils faisaient partie, et en buvant le vin, ils manifestaient qu'ils avaient communion au sang du Christ. Que le Christ n'était plus extérieur à eux, mais qu'il leur était intérieur. Et puis la quatrième persévérance, c'était les prières. Les prières. Et il y a plusieurs prières, n'est-ce pas, que vous trouvez dans l'Écriture. Il y a la prière d'adoration, où l'on déborde de reconnaissance et d'amour pour le Seigneur, prière d'action de grâce, et puis il y a des prières d'intercession, où l'on prie pour les autres, il y a des supplications, où on supplie le Seigneur pour certaines choses, mais ce qui compte, c'est d'être vrai dans notre prière. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui était produit quand, dans le monde qui voyait ces choses, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le Seigneur accréditait le témoignage des apôtres en permettant qu'il y ait des miracles. Et si nous avions vraiment une vie qui honore davantage le Seigneur et qu'il soit séparé de tout mal, on pourrait voir encore des miracles. Je ne crois pas que le temps des miracles soit passé comme certains le pensent. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Mais tout ça, c'était obligatoire, c'était volontaire, tout ça était volontaire. Et ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Et c'est là, au temple, qu'ils recevaient l'enseignement des apôtres. Parce que là, il y avait de la place. Et ils rompaient le pain, où? Dans les maisons. Ils étaient donc plusieurs petits groupes. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture, comment? Avec joie et simplicité de cœur. Et louer Dieu, et qu'est-ce qui les caractérisait, cette église-là? Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Le peuple était attiré par eux. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui attirons les âmes? Est-ce que nos communautés attirent les âmes? Voilà des questions qui doivent se poser pour nous. Et qu'est-ce qui se produisait? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Qui est-ce qui était sauvé? Ceux qui croyaient. Mais qu'est-ce qui les ajoutait à l'église? C'était le Seigneur, c'était le travail de Dieu. Comme Jésus ne s'est jamais attribué une âme, il a toujours dit que nul ne pouvait venir à lui sans que le Père ne l'attire. Il ne s'attribuait pas le résultat. Il disait, c'est le Père qui vous a attiré à moi. Puis une fois qu'on est attiré au Seigneur, Jésus nous conduit à son Père. Le Père nous amène au Seigneur, le Seigneur nous sauve, et il nous garde pour lui. Non, il nous donne au Père. Et nous sommes maintenant au Père. Alors, vous avez vu donc ces quatre éléments-là dans ce passage. Maintenant, je vous ai cité, il faudrait lire tout, mais nous abrégeons, au chapitre 4, au verset 32e, nous avons encore une seconde image de l'Église primitive, un deuxième sommaire. Le premier sommaire, on l'a donc dans ces versets du chapitre 2, dans les quatre persévérances. Puis maintenant, au chapitre 4, au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. On vivait avec un Christ réellement ressuscité. Et qu'est-ce qu'il est manifesté? Une grande grâce reposée sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Mais tout cela, c'était volontaire. Mais voilà qu'un homme nommé Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, qui signifie « fils de consolation », originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent, donnait le prix aux pieds des apôtres. Mais c'est là que quelqu'un, et c'est le chapitre suivant, Ananias et Saphira, un couple qui était croyant, mais a voulu imiter qui ? Barnabas. Et ils n'avaient pas la même foi. Et alors, cet esprit d'imitation, bien, il a commis le péché qui conduit à la mort. À la mort du corps. Je ne dis pas qu'Ananias et Saphira sont perdus. Mais ils ne pouvaient plus être témoins. Parce qu'ils ont cru qu'on pouvait simuler, qu'on pouvait montrer, ben voyez, moi, nous avons autant de foi que Barnabas. Ils ont vendu un champ, ils ont imité. Nous n'avons pas à avoir l'esprit d'imitation, nous avons à être vrai. Ils ont été hypocrites. Personne ne leur demandait de vendre ce champ. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne ne leur disait qu'ils devaient tout donner. Mais ils ont fait croire qu'ils donnaient le prix entier alors qu'ils en avaient gardé une partie. Et c'est cela qui les a conduits, l'un et l'autre, à la mort du corps. Parce que il y a des péchés qui peuvent amener le jugement de Dieu. C'est pourquoi il est dit aussi qu'à la Sainte Cène, si nous la prenons indignement, on peut en mourir. Hein. C'est pourquoi beaucoup sont faibles et malades parmi vous et qu'un grand nombre sont morts. Donc, à la Sainte Cène, c'est pas quelque chose de routinier que l'on fait. C'est quelque chose de vrai, de réel. Nous sommes en Christ, nous sommes du Christ. Et il faut que cela ne soit pas un geste extérieur. Et nous arrivons au dernier passage, qui est au chapitre 5, vous l'avez lu, au sujet de l'ombre. C'est quel verset? C'est le verset 12, hein? Oui. Ça, c'est le troisième sommaire que nous avons dans les actes de l'Église primitive. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Le Seigneur voulait accréditer leur message. Et ces miracles qui se faisaient, est-ce que c'était des miracles comme on prétend les faire aujourd'hui, au forum, par les télé-évangélistes? Je crois aux miracles, mais pas à ceux-là. Et vous pouvez exiger du miracle. Un miracle, il ne s'explique pas, mais je crois aux miracles, mais il faut qu'ils soient comme ceux du Seigneur. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, tu seras guéri dans 15 jours. Ce que j'ai, disait Pierre, je te le donne. Et immédiatement, le boiteux, là, de la belle porte, sautait sur ses pieds. Et il entrait avec les apôtres, et il louait et il glorifiait Dieu. Et ça marquait le monde. Alors ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, donc au temple, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Vous voyez que ce n'était pas de la réclame qu'on faisait. Hein? Je voudrais que vous soyez bien conscients de cela. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. Nous voudrions toujours que les autres se joignent à nous. Mais il y avait une telle sainteté, une telle crainte de Dieu, qu'on n'y entrait pas n'importe comment. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. Et le peuple les louait hautement. Vous voyez qu'il y avait un témoignage vécu. Et le nombre de ceux qui croyaient. Il y a dans la version Tob, j'aime bien ce passage. Il est toujours dit, ceux qui étaient devenus croyants. Verset 14. Et des multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur. À qui est-ce qu'on se ralliait? Au Seigneur. C'était pas à un groupe particulier, mais on se joignait au Seigneur. On se joignait au Seigneur. Et le nombre augmentait de plus en plus. De sorte que on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Vous voyez que c'était l'Esprit de Dieu qui poussait les gens à venir. C'était pas toute une propagande comme on fait aujourd'hui pour gagner les âmes. Alors, c'est cela que je voudrais que vous méditiez. Est-ce que le Seigneur ne pourrait pas, encore aujourd'hui, agir si nous avions un témoignage qui l'honore et qui le glorifie, parce que le Seigneur n'a pas changé? Et qu'est-ce qu'il est dit à la fin du verset 16? Tous étaient guéris. Donc, l'ombre de Pierre, c'était quelle ombre? C'était l'ombre du Seigneur. Comme on lit dans le psaume 121, « Il est ton ombre à ta main droite ». Eh bien, nous nous arrêtons là, et demain, nous pourrons reprendre avec plus de fraîcheur la fin de cette retraite. Concernant l'Église, je ne vais pas vous faire de la réclame pour ces traités, hein, mais ce traité a été en bénédiction à plusieurs. Maintenant, au sujet de l'unité, c'est un message qui a été donné, ça, au château de Cran, en Suisse, en 1946. C'est la troisième édition, mais il a été en bénédiction à plusieurs, mais ce message m'a valu beaucoup de souffrance et de peine. C'était uniquement à des serviteurs de Dieu que j'avais donné ce message dans le château de Cran qui appartenait à la grand-mère de notre sœur et amie Claire-Lise de Benoît, Madame Van Berchen. C'est là qu'étaient réunis des pasteurs de différents milieux en 1946. Et puis, ça a été en bénédiction pour eux, mais pour moi, ça a été le commencement de grands troubles au sujet de la communauté dans laquelle j'avais vu le jour. Et avec laquelle je marchais, servait le Seigneur. Quand on doit donner un message, vous savez, on ne sait pas au-devant de quoi on va. Et ce message de l'unité du corps de Christ m'a valu, en quelque sorte, mon excommunication de mon Dieu en 1946. J'ai donné ce message et en 47, au mois de mars, j'ai été excommunié. Alors voilà les raisons pour lesquelles je ne fais pas partie d'une communauté particulière, mais j'essaye d'apporter le message du Seigneur partout. Dieu notre Père, Nous te remercions pour toutes tes dispensations, pour tout ce qui nous a brisés, pour tout ce qui nous a humiliés, parce que nous savons que prêcher ta parole, ce n'est pas un amusement. Prêcher ta parole peut avoir des conséquences. Nous ne sommes pas plus que notre maître. Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Et nous voulons te bénir parce que nous pouvons accepter d'être rejetés par ta grâce. En considérant ton amour à la croix, nous pouvons tout accepter. Fatigue, épreuve, blâme. Seigneur Jésus, tu n'as pas essayé de te justifier. Tu as courbé la tête. Tu as courbé la tête sur la croix. Et nous, si souvent nous avons la nuque raide, donne-nous de vivre à ton image. Donne-nous de te ressembler. Donne-nous d'accepter la souffrance, l'abandon. Puisque tu as connu toutes ces choses, si nous voulons vivre comme tu as vécu, nous ne pouvons pas avoir un trône là où tu n'as eu qu'une croix. Que cette croix nous soit toujours chère, comme nous le chantons si souvent dans les cantiques, mais que ce soit une réalité dans nos vies. Et que nous n'ayons pas d'autre sujet de gloire que la croix. Mais que dans ta grâce, tu nous donnes de ne jamais nous isoler. Mais que si nous sommes rejetés, nous puissions faire cette expérience. Qu'a fait l'aveugle né quand il a été chassé de la synagogue? Tu l'as retrouvé dehors. Et tu t'es révélé encore davantage à lui, comme le Fils de Dieu. Oh, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voudrions te louer, nous voudrions te bénir, nous voudrions chanter ta gloire. Nous te remercions pour toutes tes dispensations. Et nous sommes d'accord avec tout ce que tu permets. Tout ce qui nous brise, tout ce qui nous humilie, nous remplit de bonheur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.